Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC. Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah.
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr avec notre Dream Team du jour, Arnaud Valadon, Stephen Brun, Alex Biggerstaff.
Salut,
Alex, Pierrot. C'est déjà hilar, je ne sais pas pourquoi,
mais
il
toujours.
Anticipe probablement sur les
fenêtres
de Stephen.
Darun hilar.
Ça commence bien, tu vois, c'était toi. C'est sûr, c'était toi. Tu as une petite coupe de premier communion, là, ouais. Une veste, tu as l'air tout sérieux, tout mignon. Et on sait que dans ces cas-là, le pire est à venir.
Le pire est à venir, Pierrot. Ne te fie pas au costume.
C'est un spécial.
Ne te fie pas au costume.
Asvel et Monaco aujourd'hui. Donc on va pas dire c'est spécial Euroleague ou spécial championnat de France, puisqu'on va parler des deux. La Betclic Elite, est-ce enfin l'année de l'AS Monaco? Justement, on va démarrer par là. Et puis l'Euroleague, est-ce qu'on peut rêver d'un Final Four pour l'un des deux clubs français? Vous allez me répondre à ces questions. Et puis dans la partie historique, quelle est la campagne d'un club français qui vous a fait le plus vibrer en Euroleague? On parle bien d'Euroleague, hein?
Bien sûr, Pierrot.
Pas de Coupe d'Europe, pas
non,
de,
non.
Pas de coupe
ou ancienne,
de Champions
ancienne,
League.
La ou... Coupe des Coupes champions, voilà. Parce qu'avant ça avait un autre nom.
Vous avez le droit de me parler de Limoges en 93, bien entendu.
D'accord.
Le quiz sera consacré alors au basket français, NBA. Européen. Avec des questions plus spécifiques peut-être sur l'Asvel et Monaco.
Il y a une charade ou pas?
Comme à l'étoile, difficulté.
Difficulté, je dirais 3 sur 5.
3 sur 5.
Ouais. Et
je veux savoir s'il y a la charade surtout.
Il y a la charade.
Il y a la charade.
Il y a la charade.
Oui.
Tout à fait. Vous êtes prêts? On est parti. Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. On démarre par le championnat de France.
L'envahissement de terrain, on essaye de contenir tout ça. Les joueurs sont sur Mike James, sur Chris Jones. Évidemment, l'Asvel est championne de France pour la 21e fois de son histoire. Quel fun match! 84-82. William Howard.
William Howard, le coaching de TJ Parker qui envoie Marcus Knight pour la possession défensive. Et Marcus Knight qui vient doubler. C'est lui qui vient chaparder le ballon dans les mains de Dwayne Bacon. Et l'Asvel est pour la 21e fois champion de France. Et les Monégasques qui une nouvelle fois s'incline au bout d'un cinquième match étouffant. Bravo
Monaco,
bravo
Monaco.
À la Roca Team, bravo à Monaco et bravo à Villeurbanne.
Les Monégasques. Alors, c'est vrai que Monaco n'a toujours pas de titre de champion de France malgré son investissement énorme ces deux dernières saisons. On se pose donc la question, est-ce que c'est la bonne année pour l'AS Monaco? L'Asvel reste au-dessus pour le moment avec quand même moins de moyens. On ne va pas dire que l'Asvel, au niveau du championnat de France, ça reste un très gros budget, mais comparé à Monaco, c'est quand même en dessous. Arnaud, avant de démarrer le débat, les deux équipes ont beaucoup changé. Et l'AS Monaco, on peut dire, s'est encore renforcé, non? Par rapport à l'année dernière.
Oui, on peut dire que l'équipe de cette année est meilleure que celle de l'an passé. On rappelle, quart de finale en Euroleague avec cette défaite au match 5 au Pirée face à l'Olympiakos. Et là, vous venez de l'entendre avec les commentaires, défaite en finale de la Betclic Elite au match 5 à l'Astrobal. Monaco a fait venir 8 nouveaux joueurs. Eli Okobo, Mathieu Strazel, Jordan Lloyd sur les postes extérieurs avec évidemment toujours Mike James. Il y a Blossom Game qui est arrivé à l'aile et puis le revenant, Adrien Moerman, de retour dans le championnat de France, l'international français. On peut rajouter également Dalo, Brown the Third, Moko Makundu, le jeune du Cholet basket pour être une rotation à l'intérieur avec Dante Hall et Moti Jounas qui ne bougent pas eux à l'intérieur. Les départs, Westerman, Andjuzic, Yegete, Boutsiele, Paris Lee, Falfaï et Dwayne Bacon. Grosso modo, sur le papier, si on fait la balance arrivée-départ, on peut clairement dire que c'est en faveur des arrivées avec une équipe renforcée pour coach Obradovic.
Tout le monde est d'accord là-dessus?
Nous sommes d'accord, Pierrot.
Équipe de Monaco, sur le papier, renforcée par rapport à l'année dernière.
Oui, parce que la vraie carence de Monaco la saison dernière, c'était sur le niveau des JFL. C'est ce qui leur avait coûté d'ailleurs, je pense, le championnat de France, parce qu'ils avaient beaucoup d'étrangers, mais tu peux aligner que 6 joueurs étrangers en championnat de France. Ils en laissaient beaucoup en tribune. Et donc, en championnat de France, tu as besoin de JFL de très haut niveau. Là, quand vous ramenez Adrien Marmont et Eli Okobo, ça veut dire que tu peux laisser des étrangers en tribune, mais ces deux garçons-là sont capables d'être des joueurs ultra dominants dans le championnat de France.
D'accord. Et côté Asvel, ça a beaucoup bougé aussi. Bon, il y a l'arrivée de Nando. Ils ont perdu aussi pas mal de très bons joueurs. Chris Jones notamment, on a entendu dans votre commentaire de la finale. Est-ce que l'Asvel s'est renforcé ? C'est plus difficile à dire, non, Alex ?
Non, ils se sont renforcés. C'est juste
qu'ils se sont renforcés quand même.
Ouais, l'Asvel. Non, l'Asvel s'est renforcé. C'est juste que les deux clubs phares du championnat français ont des politiques très différentes. Donc c'est très difficile de comparer quand l'un se renforce et l'autre aussi. Simplement, ce qu'a dit Stephen là, c'était très important parce que c'est vrai que Monaco a peut-être toujours manqué ce petit soupçon de touche française par rapport à l'Asvel qui a su créer dans le projet de Tony Parker une espèce de groupe très soudé, très français sur le papier aussi. Ils sont encore là, hein, les cadres, les Paul Lacombe, les Antoine Diot, etc. Cahudi, Charles Cahudi. Je peux même mettre David Lighty parce qu'il est très français aussi aujourd'hui.
On va l'appeler David Lumière, tellement il est français.
Voilà, très bien.
C'est mieux que David Illuminé.
Et dans ce projet-là, Pierrot, c'est toujours aussi cohérent pour l'Asvel. Alors peut-être que c'est moins flashy, c'est vrai, sur le papier que Monaco, mais ça reste très solide et ça ne veut absolument pas dire que Monaco est large favori au-dessus de l'Asvel.
Mais un mot quand même sur l'organisation, parce que là on parle de l'équipe pro, l'Asvel est aussi structuré derrière sur la formation. Monaco a quand même un gros cran de retard en termes de formation, développer des jeunes joueurs.
C'est pas leur délire ça.
Non. Mais c'est important sur la structure du club parce que derrière il y a aussi le projet à l'Asvel avec l'académie de Tony.
T'as le petit Rizaché qui est là au bout du banc. Et la différence entre les deux équipes, c'est que je trouve que le roster monégasque cette année, il est plus compressé.
Compact,
il y a que 11 joueurs l'année dernière, ils étaient à 14. L'Asvel, eux, ils ont 14 joueurs, donc je ne serais pas surpris que cette équipe monégasque étoffe un peu plus son effectif parce que 11 joueurs sur 34 matchs d'Euroleague plus 34 matchs de Betclic Elite plus la Coupe de France, peut-être qu'à un moment donné ils vont être un peu court sur pattes.
Il y a une meilleure compréhension aussi de la part de Monaco maintenant au bout de quelques années d'expérience avec la saison qu'ils ont fait l'année dernière en termes de recrutement, de se laisser une marge de manœuvre justement pour voir s'ils peuvent aller tâter les plus gros européens.
Sur l'effectif en lui-même à l'intérieur, est-ce que tu te renforces quand tu prends Geoffrey Lauvergne et que tu perds Victor Wembanyama?
Attends, Geoffrey Lauvergne, c'est quand même...
Tu mérites un revers lifté, Pierrot.
Non, mais je sais pas, moi, quand on en parle dans le Moscato Show, Wembanyama, tu me dis que c'est le meilleur du monde, alors je comprends plus.
C'est le meilleur du monde, mais aujourd'hui, la politique de l'Asvel n'était pas de donner à Victor Wembanyama la white card, comme il peut avoir à Boulogne. À Boulogne, Victor Wembanyama, il va pouvoir shooter 20 fois.
Le projet est sur lui.
Il a shooté 23 fois. À l'Asvel, le projet, il est un peu différent. Geoffrey Lauvergne est un garçon
rompu. Il a plus apporté, quoi.
Je pense que Geoffrey Lauvergne un peu plus à portée. Et quand tu parles de renforcement, quand tu prends Nando Docolo, l'axe 1-5, Nando Docolo, Geoffrey Lauvergne, c'est très fort. Et dans les deux compétitions, ces deux garçons qui, pour moi, vont dominer à la fois l'Euroleague comme le championnat de France.
Moi, j'aime bien la Juve, il y a quand même du monde. Alors Yves Ponce, parlez-nous de ce garçon
intéressant
que
aussi.
J'ai découvert comme
son
beaucoup.
Son père s'appelle Pierre.
Comme beaucoup d'amateurs de basket non éclairés par des vidéos de son passage à l'université où il saute à 4 mètres de hauteur. Mais à part ça, quelles sont ses qualités?
C'est un humain trampoline, Pierre. Yves Ponce qui vient
de Memphis, c'est ça?
Oui, et ce qui est agréable, c'est que il franchit le pas de revenir en Europe, là où on a souvent critiqué ici des garçons qui s'entêtent à vouloir percer là-bas. Bah, Yves Ponce, voilà, il a compris, il s'est pris un mur la saison dernière, il faut dire ce qui est. Il revient en Europe et il revient dans le projet Asvel, justement, qui comprend tous ses joueurs français. Il a sa carte à jouer en rotation.
C'est un garçon qui est un peu brut de décoffrage encore sur le basket FIBA et sur le basket de haut niveau. Maintenant, moi, j'ai rarement vu un garçon avec des qualités athlétiques comme ça. Alors, en NBA, il y en a, mais lui, il fait 1,96, 1,98. Moi, j'ai jamais vu un mutant comme ça en termes de détente. C'est hallucinant. J'ai vu des matchs de préparation mettre des contre, il est obligé de baisser la tête pour pas se fracasser le crâne sur le cercle. Alors, bien sûr qu'il a beaucoup de carences, mais il va progresser au contact des Geoffrey Lauvergne, au contact des Nordes de Colo.
Surtout en défense pour l'instant.
Défense, dissuasion en deuxième rideau, les courses et traversées de terrain. Il va profiter de la création de Nando de Colo aussi. Donc moi je trouve que c'est très bien qu'un garçon comme ça rentre très tôt dans le
mec avec des armes naturelles pareilles à qui on va donner une philosophie de jeu européenne, Euroleague, FIBA. Enfin, ouais, on a envie de voir.
Et alors pour en rester sur cette comparaison, parce qu'on est quand même dans la comparaison Monaco-Asvel, Monaco, sur les joueurs étrangers, c'est des gros noms. Quand tu prends Jordan Lloyd, quand tu prends John Brand de Seurt, c'est des mecs qui sont rompus aux joutes Euroleague, qui ont connu le très haut niveau.
Et que tu gardes les stars.
Et que tu gardes Mike James, Alpha Diallo. L'Asvel, c'est différent. Ils ont tenté de lancer les garçons dans le grand bain. Parker Jackson Cartwright, qui est un meneur de jeu.
Qui est ce jeune homme-là ?
Meneur de jeu qui était à Saint-Quentin, il y a deux ans, avec Hugo Besson, qui a été MVP de Pro B, qui ensuite est parti en Allemagne l'année dernière, qui a été MVP du championnat allemand et qui a perdu en demi-finale, je crois, contre le Bayern, va découvrir le haut niveau, comme Jonah Matthews, qui était meilleur score en Pologne et qui a des grosses qualités de scoring. Donc c'est moins flashy, mais c'est des garçons.
C'est la qualité.
Sur l'Asvel, obligé de faire aussi des paris parce que économiquement, ils ne peuvent pas, sur la scène de l'Euroleague, donner des plus gros salaires. Souvenez-vous quand ils font venir Tony Djékiri et ensuite ça le propulse derrière vers d'autres sphères Mousfale, en Euroleague. Hein. Mousfale également, tu vois.
C'est 11 millions de masse salariale, Monaco. C'est le record de l'histoire pour un club français. L'Asvel est quand même largement en dessous. Et je crois que Monaco va d'abord se concentrer sur, je pense, l'Euroleague. Le championnat de France arrivera en deuxième partie. Une fois que l'Euroleague sera fini, il se concentre. C'est pour ça que je te dis que Monaco, je ne suis pas sûr qu'il soit premier du championnat de France toute la saison, parce qu'ils vont lâcher
du
les
moment d'être
parce
en play-off.
Parce que la priorité pour eux est l'Euroleague, parce qu'ils n'ont pas de place sécurisée en Euroleague. À la différence de l'Asvel, qui eux ont encore 7 ou 8 ans en ayant la licence A. Donc l'Asvel peut se permettre de se concentrer un peu plus sur le championnat de France que Monaco.
Alors on se pose la question, est-ce que c'est enfin l'année de Monaco? Mais qui est-ce qu'il y a d'autre, à part l'Asvel et Monaco dans le championnat de France, qui peut prétendre au titre, Arnaud? Pas grand monde.
Je regarde Stephen.
Je crois qu'il y a un gouffre entre les deux, oui. Et les autres.
Boulogne-Levallois, non?
Non, t'es trop loin. La lutte pour les playoffs sera magnifique, oui. Mais t'es trop loin pour le titre. Tu laisses ça aux deux.
Peut pas y avoir une surprise, non?
Je sais pas.
Cholet a tapé l'Asvel, non?
T'enflamme pas.
Non.
Après,
je me pose des questions.
Après, t'as raison. La lutte pour les playoffs entre Strasbourg, Dijon, Bourg, Paris, Boulogne-Levallois, Limoges. Il va y avoir une vraie lutte, mais je pense qu'il y a un gros décalage en fait entre Monaco et l'Asvel et les autres. Ça veut pas dire qu'en saison Monaco et Asvel se fassent pas attraper.
Comme à Cholet, oui, ils vont être attendus.
Mais je pense que sur la finalité des playoffs, je vois pas qui peut gagner trois fois contre ces équipes-là.
Monaco qui est passé in extremis contre Nanterre, ouais. Aussi lors de la première journée.
Alors qui sera champion, Alex? Mon pronostic.
Écoute, Monaco est quadruple finaliste dans son histoire du championnat de France, n'a jamais remporté le titre, surtout sur ces dernières années, où à chaque fois, on a l'impression que c'est leur année. Je crois qu'on l'a dit au moins 5 fois là, depuis le début du projet. La saison dernière encore, je pense que ça se joue franchement à très, très peu de choses. Ça revient sur ce que disait Stephen. À partir du moment où tu mets le paquet et tu mises le tout pour aller chercher un Final Four d'Euroleague, comment est-ce que tu arrives à gérer, avec un effectif pour l'instant qui est réduit aussi, le fait qu'il va falloir que tu te montres aussi dans ton championnat domestique? À un moment donné, moi je trouve que Monaco, alors oui c'est très bien de se concentrer sur l'Euroleague et
que la wildcard, etc. C'est pas juste de gagner les matchs de play-off parce qu'ils vont être de toute façon...
Voilà. Bien sûr, non mais ils vont être...
C'est vraiment gênant ce que tu dis, toi, de faire une saison peut-être un peu en dents de scie en championnat.
Mais dans quel état physique tu vas arriver si t'as été loin en Euroleague? L'Asvel l'année dernière, l'Euroleague, ça s'est pas bien passé, effectivement.
Donc ton prono, Alex, il veut pas y aller.
Eh ben Monaco sera champion.
Ah voilà, merci. Arnaud,
j'ai du mal à le sortir.
Je sais pas, je suis quand même très séduit par l'arrivée de Nando De Colo et Geoffrey Lauvergne. Donc pour cet axe 1-5 français, je dirais Asvel.
Et toi, Steve, ton pronostic?
Écoute, sachant que l'Asvel a l'opportunité encore de signer un joueur étranger, ça va sûrement arriver sur le poste intérieur, parce que sur le poste 4, Amine Noah, Yves Ponce, peut-être ça, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. Donc tout dépend du joueur qu'ils vont prendre. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois encore l'Asvel, parce que j'ai l'impression que Nando et Geoffrey auront peut-être un peu plus d'implication dans un championnat de France pour être champion de France que des garçons comme Jordan Lloyd ou Mike James qui, une fois l'Euroleague finie, il y a un petit sas de décompression pour ces garçons, parce que je suis persuadé que ces garçons-là sont peut-être un peu plus motivés pour jouer le Fener Olympia Milan que Strasbourg.
C'est déjà beau de garder Mike James deux saisons.
Hein, ouais.
C'est déjà beau qu'il ne soit pas embrouillé avec la moitié de Monaco.
Qui te dit qu'il n'est pas embrouillé, mais qu'il est quand même encore là.
Allez, donc ça fait 2-1 pour l'Asvel.
Et toi, Pierrot?
Aucune idée. Je
ça ne t'intéresse pas?
C'est pas que ça ne m'intéresse pas.
Il avait envie de dire Cholet, je crois.
Je ne suis pas capable de te dire. Bah, après, il me semble que Monaco est très, très bien armé, mais bon.
Ouais.
Vous avez des arguments, je dois vous dire, assez convaincants ouais, sur l'ASVEL. Je pensais que Monaco aurait plus les faveurs des pronostics.
À un moment donné, ça va tomber, un champion de France pour Monaco.
Alors, on va passer à l'Euroleague. Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
And again, it's Paris Lee. The game is over. How hard be the end of quarter? Oh, what drama! Oh, my goodness! An absolutely extraordinary conclusion.
Oh, he gets swatted from behind by Poirier.
Ball fake by McKissick. And Carlisle meets him at the rim. Oh, what a shot of McKissick.
Oh, my word. Dante Exum with the astonishing slam in the face of Othello Hunter.
Hesitates, gives it back to Slukas. Pump fake, beats the shot from Butter. And at the death in overtime.
Alors, est-ce qu'on peut rêver d'un Final Four cette saison pour l'un des deux clubs français? Alors voilà une compétition très relevée et surtout très indécise. Difficile de détacher un favori plus qu'un autre, mais il y a peut-être au moins la moitié des équipes qui arrivent avant l'AS Monaco et l'ASVEL. Est-ce que c'est votre avis, messieurs Arnaud?
Oui, tu as quand même un chapeau 1. Si on devait faire des chapeaux, on est obligé de parler du double vainqueur sortant, l'Anadolu, qui certes n'aura pas Shane Larkin sur le début de la compétition, mais tu as quand même encore des joueurs comme Micić, tout ça, c'est fort. Le Barça, évidemment, avec Mirotić, avec Yann Vesely, Mike Toby dans le secteur intérieur et... Sertac Sandli, qu'on a
bien
vu
sûr.
Face à l'Euro. À l'Euro.
Finalement, il s'en a acheté, hein, finalement.
Oui, bah ça vaut mieux.
Le Real, évidemment, avec son armada, nos Français, Vincent Poirier, Gershon Yabusele. J'ai hâte de voir Zenan Moussa, le Bosnien qu'on a vu à l'Euro contre la France aussi. Voir est-ce qu'il va pouvoir, formidable joueur, mais est-ce qu'il va pouvoir avoir des minutes dans cet effectif pléthorique du Real. Donc forcément, tu as des équipes armées. Et voilà, j'en ai cité trois déjà, mais on peut rajouter encore deux ou trois derrière avant de mentionner éventuellement.
Alors
Monaco,
si on fait une hiérarchie des favoris, Alex?
Ce qui est simple, Pierrot, c'est que si t'as loupé l'Euroleague sur les trois dernières saisons, tu seras pas perdu pour annoncer les favoris cette année non plus. C'est un truc qui ne bouge pas.
Ouais, alors il y a pas mal de transferts.
T'enlèves les Russes, tu te fais une mise à jour par rapport au conflit, mais tu reprends toujours les mêmes. T'as toujours dans le panier le champion en titre, donc là, l'Anadolu FS Istanbul, avec son effectif qui ne bouge quasiment pas, et là, ils viennent de recréer un Big Three, je pense, assez incroyable avec l'arrivée de Will Clyburn. Tu as le Real Madrid et le Barça que tu ne peux jamais sortir effectivement du lot de favoris. Et derrière, je dirais que tu as un petit cran en dessous, tu as toujours les classiques Olympiakos, Olympia Milan. Et là, la question est de savoir est-ce qu'on peut mettre Monaco dans ce panier-là.
Ah, carrément.
Oui,
ah,
tu les oui vois Pierrot. Très haut. Parce que tout à l'heure, quand tu as dit est-ce qu'on met la moitié des équipes devant eux,
j'étais pas d'accord.
Non.
Moi, je rejoins un peu Alex et je rajouterai le Fener. Je rajoutais le Fener avec Dimitri Sitoudis et ils ont recruté du lourd, Calates, Will Buckin. Ils ont pris un petit garçon qui s'appelle Carson Edwards, qui était le meilleur marqueur de G-League et qu'on avait aperçu du côté des Celtics et qui est un formidable scoreur. Il y a Bilicha qui arrive. Ils ont le MVP de l'Eurocup, Jonathan Motley, qui est là aussi, Tony Djikiri. Donc le Fener, il y a six équipes là. Et ensuite.
T'as toujours une surprise,
mais attention.
La Virtus.
Alors. Attention à deux nouveaux venus. Et la Valence. Virtus Bologne et le Partizan Belgrade. Parce que c'est des équipes qui ont des gros moyens, qui ont recruté. Partizan, ils ont Dante Exum, ils ont ramené Papa Petrou, ils ont encore Zach Lidé, Mathias Lessort, ils ont du monde.
Un bon coach.
Ils ont un bon coach avec Zeljko Bradovic. Et la Virtus Bologne, Daniel Hackett, Bellinelli, ils ont récupéré le petit Felunberg qui était du côté du CSKA.
Théodosic,
ils ont Jordan Mikey.
Un bon coach
ils
aussi.
Ont signé Olegeye, celui qui était à Boston.
Ouais, Sammy Olegeye. Ils attendent ça depuis combien de temps, la Virtus
Bologne? Beaucoup de temps. Donc,
et Isaiah Cordinier, quand même.
Bien sûr, à noter, les Français, c'est important. Il y en a plein de Français. Donc écoute, Monaco.
Nico Magnon, qu'on a vu à l'Euro.
Mais je ne suis pas sûr qu'il joue beaucoup parce qu'il y a du monde. Mais Monaco va batailler pour être là dans les 8, mais il y a une concurrence démentielle. Et il y a des équipes qui jouent bien au basket. Le Bayern, l'Alba Berlin, qui sont des équipes qui, sur le papier, ne sont pas fantastiques. Mais le Bayern, coaché par Trinchieri, c'est toujours pénible à jouer sur une saison.
D'accord,
c'est ça qui est fort avec cette Euroleague, c'est que tu as évidemment des super joueurs, mais sur les bancs de touche, wow, là les techniciens, là les QI basket, quand tu vois, tu parles des Trinchieri, des Itoudis, tout ça, c'est franchement aussi des gros duels tactiques et c'est beau aussi de voir ça, vraiment des penseurs du basket et les meilleurs coachs européens qui sont là, quoi.
Alors si on fait une hiérarchie, donc tu mets les trois devant là, les deux Espagnols plus Anadolu et Monaco dans le deuxième panier, on va dire.
Dans les outsiders du
avec Final Four. Steve et Arnaud.
Ouais, j'ai tendance à être d'accord. Maintenant, la vraie.
Donc, un Final Four n'est pas complètement impossible.
Non, bah, écoute,
ils sont.
Le problème, c'est qu'il n'y a plus l'effet de surprise pour Monaco. L'année dernière, c'était nouveau venu, effet de surprise, Mike James. Le début de saison a été compliqué. L'arrivée de Obradović, je crois qu'ils font avec l'Anadolu la deuxième meilleure partie de saison, les Monégasques. Et maintenant, ils sont attendus au tournant. Monaco est aujourd'hui une place forte, pas dans le temps de l'Euroleague, mais les joueurs qu'il y a sur le papier. Aujourd'hui, quand tu prépares un match contre Monaco, tu peux avoir peur. Et que tu sois l'Anadolu, le Barça ou le Real, les Monégasques font peur aujourd'hui à tout le monde parce qu'ils ont des joueurs hors normes. Donc, il va falloir changer de statut. L'année dernière, c'était le petit poussé qui arrivait. Aujourd'hui, tu es un match...
C'est un peu comme l'Asvel, finalement. L'Asvel qui a surpris la première saison. Exactement. Et on a vu la saison dernière un peu plus difficile.
L'Asvel arrive après, quand même.
L'Asvel arrive après.
Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer, les Villeurbanais, là, dans cette ligue?
Ils continuent leur travail de monter les échelons petit à petit. Il ne faut pas avoir trop d'attente.
Il faut faire mieux que l'année dernière.
Et ils vont faire mieux que l'année dernière avec Nando, avec Geoffrey. Moi, j'ai très peu de doutes qu'ils fassent mieux que l'année dernière. Maintenant, on ne peut pas encore attendre de l'Asvel ce qu'on attend de Monaco.
L'Asvel avant-dernière, 8 victoires, ouais. 20 défaites.
Alors, une saison compliquée parce qu'après 8 matchs, ils sont quasiment leaders, je crois. Ils sont à 6 victoires de défaites, les Villeurbanne, au début de saison. Et ensuite, rideau. Alors, il y a eu beaucoup de Covid, il y a eu beaucoup de blessés. Alors, ça explique pas tout, mais ils ont vécu après un enfer tout le restant de la saison Euroleague. Moi, je veux voir une équipe villeurbanaise aujourd'hui, quand t'ajoutes Nando De Colo, qui la compétition, il a mis la compète dans sa poche depuis 8 ans, Nando De Colo. Il la maîtrise à merveille. Geoffrey Lauvergne, qui est rompu aux joutes d'Euroleague. Moi, je veux voir Villeurbanne à minimum 11 ou 12 victoires cette année.
Ouais, c'est
minimum.
C'est très
ambitieux. À 12, c'est 9e. Hein.
Sachant que pour être dans les 8, il faut être à 14, 15, 16, ouais. Même si au jour de l'année dernière, c'était beaucoup. Moi, je veux les voir à 12 victoires. Je veux les voir surtout espérer toute la saison, pas être largué très tôt et dire
ça a été le cas il y a 2 ans, ils ont cru jusqu'au bout pouvoir se qualifier dans les 8, mais pas l'année dernière. L'année dernière, ça a
l'année dernière, il y a eu, après 8 matchs, c'était rideau complet.
Alors donc, on va plus penser à Monaco pour une éventuelle qualif au Final Four. Écoutez le discours très ambitieux d'Adrien Moerman, de retour donc dans le championnat de France et qui vient du champion en titre.
Parce que comme je suis un très gros compétiteur, je voulais vraiment avoir un nouveau challenge. Je pense que Monaco avait les ambitions très clair de s'imposer dans l'Euroleague. Je pense qu'on a la plus grosse équipe de compétiteurs qu'on a peut-être sur l'Euroleague.
Voilà, carrément, lui voit quasiment la possibilité de gagner l'Euroleague avec Monaco.
Bah, ça c'est le discours qui est un peu tenu. Hein.
Bah, c'est le discours du club.
Bah, les ambitions, déjà, être champion de France.
Après, quand t'es puissance, quand t'es à un match et que tu perds de 6 points...
Pourquoi pas, je vois juste Alex qui a de la connerie en lui aujourd'hui, se marrer quand il entend Moerman. J'ai l'impression que tu veux dire des saloperies sur quelqu'un,
Quand t'es à un match du Final Four, le step d'après, c'est être au Final Four.
Tu t'attends à quoi sur un discours d'Adrien Moerman en début de saison?
Il va pas te dire gagner l'Euroleague.
Bien sûr, mais ils sont à un match, comme dit Stephen, d'être au Final Four. Une fois que t'es au Final Four, tout
peut se passer. Parlons de ça, justement. Ce match 5.
Sinon, Adrien, il va pas rejoindre Monaco s'il croit pas dans le projet.
C'est vrai que Monaco a été fantastique sur cette confrontation face à l'Olympiakos, mais souvenez-vous quand même du match 5. Ils sont battus par plus fort, quand même, malgré tout, à la fin.
Par une meilleure équipe, en fait.
Par une meilleure équipe.
C'est la question, comment Mike James va se comporter.
Ça n'avait rien d'honteux.
Comment il sera canalisé cette saison.
Mais est-ce que du coup.
C'est quand même un match exceptionnel sur un match 5.
Oui, justement. Ils peuvent pas faire mieux. Ils peuvent pas faire mieux, ils sont sortis. Donc est-ce que ça reste pas quand même du domaine encore du rêve d'être dans le Final Four, c'est-à-dire dans les 4 meilleures équipes?
L'équipe est meilleure cette année. Individuellement, l'équipe est meilleure cette année que l'année dernière.
Ils peuvent taper un Olympiakos.
Pierrot, t'as rien perdu, t'as gardé tout ce qui fait ta force, t'as rien perdu.
L'année dernière, avant les playoffs, je crois qu'ils mettent 20 à l'Anadolu, ils mettent une branlée à Milan. Maintenant, la vraie question, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, c'est comment on va prendre. Parce que moi, cette équipe, elle m'a donné envie de vomir les 2 premiers mois, les 3 premiers mois de compétition, Monaco. Comment ils jouaient
l'an
dernier. À vomir. Et finalement, après, tu t'en as accommodé parce qu'il y avait des joueurs hors normes individuellement, Dwayne Bacon, Mike James, alors le collectif.
Faut pas changer un peu ça?
Je pense qu'il va falloir que Obradović fasse vivre 3 garçons qui sont 3 gloutons. Mike James, Eli Okobo et Jordan Lloyd. De ces 3-là...
Il peut y avoir bagarre au bout d'un mois entre Jordan Lloyd et Mike James, non?
Je sais pas.
Parce que
Jordan Lloyd va jouer sur le poste 2, je sais pas, mais la saison Monaco en Euroleague dépendra de la cohabitation de ces 3 garçons-là s'ils ont envie de share the ball, Pierrot.
To share the ball, the ball. Toi, tu chérais la balle un peu ou...
Oui, je l'avais pas souvent. Donc, je la chérais pas souvent, Pierrot.
Juste un truc à ajouter, Pierrot, c'est que Gaston Médecin a eu un lifting cet été.
Ouais.
Et ça va avoir un petit peu plus de gueule quand Monaco va recevoir.
Une vraie salle avec une espèce
combien
de colisée
du coup
avec des sièges tout autour, ça fait une espèce d'arène.
Ils ont gagné en capacité.
Ils vont être à 4005, je crois. Elle est jolie. Ils ont bien bossé.
Donc, c'est pas un rêve pour vous que Monaco.
Moi, c'est pas, pour moi, c'est pas un rêve.
C'est une ambition très élevée, mais c'est une ambition, pas un rêve.
Arnaud ?
Oui, je suis d'accord. C'est pas un rêve parce que, comme on dit, ils sont à un quart-temps, ils sont devant. Hein. Fin du troisième quart-temps, lors du match 5 contre l'Olympiakos.
Donc, avec un énorme Yacouba Ouattara, 15 puntos.
Monsieur, sortez vos livres d'histoire.
Le reste appartient à la légende, Trévise, l'angoisse, la défense, la magie, la folie, l'éternité.
C'est terminé, victoire de l'Olympiakos 94 à 88. Cette équipe aura vibré jusqu'au bout, c'est déjà héroïque d'être arrivé jusqu'à ces quarts de finale, mais la marche était peut-être un petit peu trop haute.
Voilà, c'est la fin du match, c'est terminé. Et c'est Barcelone qui jouera donc la finale de l'Euroleague après-demain contre l'Olympiakos. Bravo à cette équipe de Villeurbanne qui nous a fait rêver pendant toute une saison.
Alors, donc, quelle campagne d'un club français en Euroleague vous a fait le plus vibrer ? Je suppose qu'on va parler de Limoges, mais vous pouvez me parler de ce dont vous avez envie.
Stephen.
Comment ? C'est le choix de Stephen ?
Limoges. Une blague.
Limoges.
Pas du tout.
Tu vas te faire de nouveau des amis à Limoges. Tu commences comme
sachant
ça.
Sachant que Pierrot, avant l'émission, on a le conduit. Pour pas que l'homme la semaine dernière,
donc,
je trouve avec trois mecs qui ont choisi la même
réunion
chose.
Éditoriale. Donc Steve fait moi, je prends pas Limoges.
Mais arrête de mentir, c'est pas vrai.
On va devoir sortir les captures d'écran.
Arrête, c'est pas vrai, Pierrot.
Quand tu nous parles de Pau, là, tu sors hein, direct.
Hein. Bah, je vais pas parler de Pau.
Ça va. Bah, vas-y, commence, tiens.
Bah, écoute, depuis l'émancipation de l'Euroleague avec la FIBA en 2000, moi, il n'y a qu'une énorme perf d'un club français. On en a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est Monaco la saison dernière qui m'a donné le plus de frissons.
Plus d'émotions. Ouais. Alors qu'il te faisait vomir en début
de
saison.
Mais ils m'ont rattrapé par le callback. J'étais à deux doigts de sauter. Et ils m'ont dit, bah, non, finalement, reste avec nous parce qu'on va te faire plaisir. Écoute. Il y a un match de Final Four. Quand on connaît la puissance financière aujourd'hui de certains clubs Euroleague, la saison dernière, Monaco, un gros budget pour le championnat de France, mais c'était la 11e masse salariale seulement de l'Euroleague, avec 6 millions, très loin des 20 millions du Real ou des 19 millions du Barça, des 15 de l'Anadolu Efes. Et Monaco a réalisé la meilleure phase retour de l'Euroleague avec l'Anadolu. C'était l'équipe que tout le monde voulait éviter en quart de finale parce que c'était l'équipe qui avait la meilleure dynamique. Avant les playoffs, ils ont mis 20 pions à l'Anadolu, 20 pions à l'Olympiaco sur la fin de saison régulière. Et oui, le jeu collectif n'était pas fantastique, mais j'ai vu des mecs capables de dominer des matchs tout seul, en fait. Dwayne Bacon, Mike James, Danilo Anduzic qui prenait des coups de chaud. J'ai vu des actions de grande classe, des alley-oops avec Danta Hall, qui est un joueur, on parlait de Yves Ponce. Danta Hall, c'est Yves Ponce, mais en un peu plus grand. Ils vont prendre le match 1 à l'extérieur au Pirée. Ils ont la possibilité d'aller au Final Four parce qu'ils ont deux matchs à Gaston Médecin. Malheureusement, ils se font attraper sur le match 3. Ils gagnent ric-rac sur le match 4. Et là, t'arrives dans la stade de paix et de l'amitié qui porte mal son nom au Pirée. C'était le feu fumigène et ils ont fait un match de bonhomme. Alors certes, ils perdent. Ils ont fait un match de bonhomme avec Yacouba Ouattara qui a été fantastique. Ça craque sur la fin. Et j'ai adoré la transformation de cette équipe avec l'arrivée d'Obradovic. Une équipe ultra offensive avec un collectif réduit, certes, mais des individualités hors normes. Et Mike James, on aime ou on déteste. Mais parfois, il m'a fait lever de mon canapé, ce petit garçon.
Il peut prendre feu et c'est beau dans ces cas-là. Voilà. Alors, très bien. Donc, Monaco 2022, Arnaud.
J'ai pris l'Asvel 97. Alors là, on est une époque
qui va
au Final Four. C'est le dernier club français qui est allé au Final Four. Il y a trois clubs français à l'époque. Voilà, le championnat qualifié. On avait le CSP qui est allé en quart, Pau Orthez qui n'a pas passé le premier tour et l'Asvel, donc coaché par Grégoire Beugnot avec Dylan Erod, qui est allé au Final Four. Défaite en quart et défaite également pour le match pour la troisième place. Ça commence par un premier tour, 7 victoires, 3 défaites, 3 victoires à l'extérieur, dont une au Pana notamment, au Barça aussi, avec un Dylan Erod qui avait planté 35 points à 6 sur 8 à 3 points. Ensuite, la deuxième phase de poule, à l'époque, on croisait avec trois équipes d'une poule opposée. 5 victoires, une défaite à l'issue. Il termine donc qualifié pour le top 16, l'équivalent des 8e de finale. Il s'impose en 3 en match, en 3, donc 2 victoires, une défaite face à Estudiantes. Et en quart, il joue l'effet Spilzen, déjà là, hein, les Turcs évidemment. Ils perdent le match 1, 87-61. Il s'arrache au match 2 avec Jim Bilba qui était présent à l'époque. 19 points, 14 rebonds, 5 passes, match monumental. Et en Turquie, ils vont arracher le match 3 le 3 avril 1997. 20 points de Dylan Erod, victoire 62-57. Et Final Four à Rome, ils se retrouvent face au Barça qu'ils avaient battu en poule à domicile et à l'extérieur. Sauf qu'il n'y a pas Jim Bilba blessé au poignet. Défaite 77-70. En face, il y avait notamment Sacha Djordjevic, le Serbe, qui avait mis 17 points. Voilà, 66% 50% de réussite au lancer sur cette demi-finale. Peut-être des regrets pour l'ASVEL de Grégoire Beugnot, qui est le seul coach français avec Michel Gomez à avoir amené un club français en demi-finale de l'Euroleague. Et finalement, ils ne se sont pas remis, défaite pour la troisième place face aux Slovènes de l'Olympia. Mais voilà, avec Alain Digbeu aussi, qui avait emmené cette équipe.
Quel est tragique, hein. Ça avait beaucoup choqué, la blessure de Jim Bilba. Le poignet en sang, les vaisseaux qui giclent partout quand tu viens de te qualifier à Nodoulou, ça avait traumatisé beaucoup de joueurs dans l'équipe.
Et ensuite, ils avaient quand même... Alors, ils n'étaient pas retournés au Final Four, mais ils avaient connu encore 2-3 saisons de Euroleague magnifiques.
Ouais. L'année d'après.
C'était une épopée aussi, après celle de Limoges, celle de la Zelle.
Exactement.
À toi, Alex.
Eh ben, on va revenir à Avril 93.
Limoges.
Jamais les premiers.
Je suis obligé de citer ça quand même.
Jamais les premiers, comme dit Arnaud,
parce que même tout sport confondu, en C1, c'est le premier club français à avoir remporté le Graal, la plus grande compétition européenne, donc l'Euroleague, pour Limoges le 15 avril 93, soit plus d'un mois avant que Basile Boli ne mette sa tête face à Milan en foot. Le CSP, qui était d'ailleurs encore une fois au stade de la paix et de l'amitié. Comme par hasard, tout se passe là-bas. Au Final Four, donc à Athènes, Limoges va déjouer tous les pronostics de l'époque. Pierrot, il y a des noms juste inoubliables dans ce groupe-là, à commencer par le coach Božidar Maljković, évidemment l'homme à la recette miraculeuse, qui a emmené toutes les autres équipes sur un plan de jeu simple, c'est-à-dire qu'on jouait tout pour la défense. Tous les matchs se jouaient à 55-60 points pour Limoges, et à partir de ce moment-là, ils pouvaient battre n'importe qui. C'est ce qui va se passer en quart de finale. L'Olympiakos saute. Au Final Four, le Real Madrid saute. Et en finale, c'est le Benetton Trévise d'un certain Tony Kukoč en larmes qui saute aussi. À l'image du coup de tête de Basile Boli, l'action incroyable qui revient, et ça apporte beaucoup d'émotions aussi quand j'ai préparé le petit papier, parce que l'interception de Fred Forte, ça c'est une des plus grandes images du basket français. Et grosse pensée pour Fred Forte encore aujourd'hui. Et
débat éternel sur la faute ou pas faute.
Oui, alors pour avoir discuté beaucoup de fois avec Fred, notamment en soirée, il me dit: Steph, je te jure qu'il n'y a pas faute, je touche que le ballon.
Il l'a servi.
Si tu fais des soirées avec Tony Kukoč, il me dirait: Steph, je te jure,
il a fait faute.
Comme David Douillet en finale à Sydney, est-ce que le point lui est accordé à juste titre ou pas, ça sera des débats éternels, et les Japonais diront toujours que non, et c'est trop tard.
C'est fini maintenant.
C'est fini.
Et je finirai juste par cette citation de Maljković qui dit: ce Final Four à Athènes fut absolument magique, c'est quelque chose qui arrive une fois en 100 ans. Alors, est-ce qu'il avait raison ou pas?
J'ai l'impression, 1993.
Parce que là, on est quand même loin d'une victoire en Euroleague pour un club français. On va quand même. Là, on va vraiment parler de rêve, de fantasme.
Après, quand tu es au Final Four.
J'espère qu'on n'attendra pas 100 ans, hein, Pierrot.
Pierrot, quand tu es au Final Four, il y a deux matchs à gagner, mon gars.
Exactement.
Grand.
Mais les deux plus durs, peut-être.
Oui, mais bon, sur un match.
Quand tu arriveras dans le rôle de Monaco LaSvel.
L'an dernier, le Barça. Tu peux battre tout le monde.
Oui, mais quand tu arrives dans le rôle de Monaco LaSvel au Final Four, t'es un peu sans pression. Tu vois?
Ouais, il faut encore se les taper, hein, les Tavares, les Micić et compagnie. Hein,
ton player, Tavares.
Non, mais ça reste. Non, je me souviens quand même de l'Andes. Alors, je vais pas vous mentir,
coaché,
les matchs.
Il était coaché par Michel Gomez.
Il l'a fait à chaque fois.
Les matchs de saison régulière, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai trouvé que le Final
Marseille.
Four de l'Euroleague, c'était assez exceptionnel.
Mais tu m'as dit que tu t'étais régalé sur le match 5 au Olympiakos Monaco.
Absolument, et on y a cru. Pour Monaco. Le quiz, c'est parti.
Oh, j'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier, c'est parti chez
Sting. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en
premier.
Et
là, c'est après ou pas?
Je vais
tout arracher.
Ah, je l'ai. C'est un mec qui... C'est... Enes Kanter.
Non. Pour les bonnets d'Anne. I en...
Ouais.
Ouais.
J'ai pas compris, j'étais sur 2006, Pierrot, ta question,
elle est pourrie. Vous voulez pas respecter les rouquins, les amis. C'est ça votre problème.
On avait tous envie de leur mettre une grosse droite dans la bouche.
Ouais.
Ouais. Daniel Ena Cornflex.
Daniel Ena Cornflex.
Et après, je vois la demi. Come on, Steph, it's a big mistake. Ousmane Dembélé.
Mais c'est n'importe quoi.
Oui, c'est drôle.
C'est marrant.
Drôle.
La prochaine fois, l'émission, ça sera que le générique du quiz.
C'est un quiz à forte connotation basket français.
Merci, c'est le thème du.
Mais pas uniquement. Il y a aussi un peu d'Euroleague hors France, comme ça.
Très bien, Pierrot.
Content. On va voir si vous suivez bien l'actualité de la BetClic Elite.
Oh,
ah, bah oui, quand même, c'est votre boulot. Oui. Hein. Qui a fait la meilleure évaluation lors de la première
Jordan
journée
Clyde.
Non. Lors de la première journée,
Ismaël Kamagaté du Paris Basket,
c'est excellent, c'est exceptionnel, malgré la défaite.
Ouais, 8 contre.
12 points, 16 rebonds, 8 contre, incroyable.
Kamagaté, fort.
Ismaël Kamagaté.
Joue pas en Nouvelle-Zélande.
Défaite à Bourg-en-Bresse en prolongation. Premier organisé, point.
Kamagaté. N'écoute pas.
Moi qui suis l'actu de la BTK.
Bien sûr, Pierrot. L'actu musicale, tu la suis.
Quelle franchise NBA a ses droits à Kamagaté?
Kamagaté, Denver.
Denver Nuggets, exceptionnel.
Ah, les pépites.
C'est vrai que le costard, c'était flippant. Hein, et...
Il a été drafté par Détroit, mais envoyé tout de suite à Denver. Il a un avenir en NBA, ce garçon.
Pourquoi pas?
Ouais.
Pourquoi pas?
Seul l'avenir nous le dira.
Ouais, merci.
Donc Attends, on va prendre une pige pour entendre ça.
Bon, bah, bravo. Hein. Très, en fait, il a juste envie d'avoir les questions pour marquer des points.
J'avais la connerie, je vais confirmer.
Moi, je voudrais aussi qu'on profite de Squeeze pour faire deux, trois choses. Ismaël Kamagaté.
Il a fait les Summer League avec Denver, Ismaël Kamagaté.
Le problème, c'est que t'es chez Jokic, quoi.
Donc, chez Jokic.
Oui, mais avoir un rôle déjà sur le banc.
Derrière Jokic,
il
y a peut-être.
Ah oui, parce qu'il arrive et il pense qu'il est titulaire et tout.
Mais non, mais moi, je trouve ça bien de refaire encore une saison. Là, il va jouer l'Eurocup, il va jouer une Coupe d'Europe, donc je trouve ça bien que lui et Bégarin
aient
une
saison supplémentaire.
Je me dis, pour un pivot européen, si tu arrives en NBA, c'est peut-être mieux de ne pas être dans une franchise où le franchise player, c'est le pivot.
Peut-être qu'il va encore apprendre plus vite.
Donc ça fait deux points pour Steph. Lors de l'Eurocoupe 2021, remportée par l'AS Monaco.
Oui.
Oui. Qui est MVP des finales?
Paris Lee.
Non, c'est Marco Snyder. Non.
Rob Gray, pardon.
Oui, c'est là. Encore une fois, c'est là. 3-0.
C'est à commenter en plus, Alex. C'est une faute professionnelle, ça. Là, tu les as suivis. Là, c'est jusqu'au bout.
Contre Rob Gray, qui a signé en Turquie.
Ouais.
Et qui a peu joué, si je dis pas de bêtises, l'an dernier.
Non, quelques nuances.
Donc, l'équipe de l'Eurocoupe 2021 n'a plus rien à voir.
Non,
celle d'aujourd'hui.
Non, pas du tout.
3-0 pour Steve.
Mais ce qui leur a permis de rentrer en Euroleague, cette victoire en Eurocup.
Absolument. Alors donc, c'est Rob Gray, le MVP des finales. Mais oui. Qui est MVP de la saison régulière de cette Eurocoupe 2021?
Milos Teodosic.
Exceptionnel, Stephen Brun. Aujourd'hui, il est sur un nuage.
Vas-y, on va le refaire, il va enlever la veste et tout.
Milos Teodosic.
T'es un démon. Hein.
Donc, avec la Virtus Bologne qui va peut-être enflammer l'Euroleague.
La Vénus de Milos,
bravo.
Le mec était même pas en finale, il est MVP. Tu vois,
mec, il joue même pas avec
la saison régulière. La saison régulière.
Ah, c'est vrai.
Ah, c'est vrai. Tu veux qu'on fasse le débat sur...
Non, surtout pas. Non, surtout pas.
C'est incroyable ce que je viens d'entendre, Alex. C'est incroyable. Alors, téléchargez un basket time de la saison dernière sur Nikola Jokic ou les Denver. Vous comprendrez la référence. On en est à 4-0. Faudrait pas prendre Fanny, messieurs.
Est-ce qu'on passe sur la table?
Quel est le dernier joueur français élu MVP du championnat de France?
Edwin Jackson? Non. Adrien Moerman,
exceptionnel. Stephen qui ne laisse absolument aucun espoir à ses adversaires. Ça fait 5-0. Mmh. C'était en 2015.
Oui.
Avec Limoges.
Il n'y avait pas une charade?
Ouais, moi aussi.
Avant
la charade,
je vous donne les clubs d'un joueur dans l'ordre de sa carrière et vous devez me donner son identité. Accrochez-vous, Alex.
Il a dit
et Arnaud, tu n'as rien compris?
Non.
Bah, je vais donner
le CV d'un joueur.
Dans sa carrière. Okay. Voilà. On commence à Chalon-sur-Saône. Ensuite, Valence
de l'année.
J'ai la balle.
Puis Partizan Belgrade.
Geoffrey Lauvergne.
Kim Moscou, Denver Nuggets, OKC, Chicago, San Antonio, Fenerbahçe, Žalgiris, Kaunas, Asvel, 6-0.
C'est un premier set.
Expédié rapidement. Hein. La charade, vous la voulez?
Oui.
La charade, mon premier est un magazine féminin.
Lui?
Pour mon deuxième, les brunes Elio ne comptent Kobo. Pas pour des prunes.
Eli Okobo, bravo.
J'ai tout misé sur la charade.
On sent le mec abonné à elle qui reçoit la boîte aux lettres.
T'as quand même dit lui.
Oui.
Ouais, voilà. Bien,
donc voilà.
Attends, Elio. Ah, Lio, la chanson.
Elio.
Ouais.
Après, il y avait quoi?
Mon troisième est une vache aux États-Unis.
Cow.
Voilà. Et mon quatrième est la moitié d'un plat vietnamien à base de.
Ah, bah ouais, c'est bon. C'était 7 points, 7 points la charade.
Non, 7 points, tu peux peut-être les marquer avec la dernière question. Question multipoint.
C'est quoi cette musique?
Kamagaté.
Pourquoi on nous a balancé ça?
Parce que c'est Kamagaté.
C'est Jalvio, là. Je crois qu'il en a marre de ce quiz déséquilibré, en fait.
Alors.
Comment
on va attribuer les points? On va attribuer un point par tranche de 3 joueurs, ok?
Un point par tranche de 3 joueurs.
Pas exagérer, vous êtes quand même vraiment à la bourre.
Bah non, j'ai marqué 7 points.
On va instaurer une golden carotte au quiz de basket time, en hommage. Hein.
Alors, les joueurs du Mans, champion de France 2018.
Ouais, t'as
t'as commenté la finale.
Ouais, t'es un énorme cochon. D'où tu le MSB?
Ah!
Bah,
pour parler un peu de tout le monde dans cette émission, on fait 80% de NBA. Alors, Le Mans 2018, Arnaud, combien tu nous en donnes ?
Un.
Bah, ça va pas faire beaucoup de points tout ça. Alex ?
4.
4, très bien. On monte, Steve ?
6.
Allez, on monte à 6, c'est excellent.
Non, je jette les
points. Tu jettes l'éponge.
Attends,
Alex ?
Attends, j'en ai récupéré un cinquième, là.
Alex, si tu montes à 7... Si tu montes à 7...
Putain, je suis bloqué à 6.
Bon, de toute façon, il faudrait que tu me...
Non, allez, 7.
Allez, tu montes à 7.
Ah, c'est bon, bravo.
Il va laisser.
Est-ce que j'ai du panache ? Je vais à 8. 8, c'est énorme à 8. Hein.
8 sur 12.
Attends, vu comment t'es parti aujourd'hui, tu dois aller à 8.
Je vais aller à 8.
Bravo, voilà. C'est beau, c'est beau. Tu montes à 9 ?
Non, ouais, non, faut pas déconner. Non,
non, donc tu abandonnes l'idée de gagner.
Mais 9, c'est l'effectif entier.
Non, il y a 9 avec le coach.
Il y a 14 noms. Hein.
Ouais, je peux citer le coach, l'assistant coach et tout.
Allez, c'est parti.
Président.
Je vais démarrer par la doublette de meneur, Justin Cobbs, Antoine Ayto.
C'est excellent.
On est bon. Après, on va partir à l'intérieur. Youssouf Afal.
Bien sûr.
Roméo Trévis.
C'est excellent.
Ça fait 4. Ensuite, il y a un mec qui shootait, qui avait un ricain qui prenait feu. Putain, j'ai plus son nom.
Moi, je sais déjà, il a oublié, il a oublié un intérieur, mais c'est
il
pas
mixait,
grave.
Il mixait bien quand même. Hein.
DJ.
Ah oui
bah, DJ Stephens.
La triche.
DJ Stephens, mais c'est pas lui à qui je pensais.
Là. T'as oublié un intérieur.
Un shooter. Jacques Alinguet.
Non.
Terry Tarpey, pardon.
Terry Tarpey, bien sûr.
Est-ce qu'il y a Mathieu Gauzin? Est déjà dans le roster ou pas ?
Non.
Pas Philippe Amagou ?
Excellent.
Mais il n'a pas joué, il était blessé.
Non.
Le shooter que je cherchais, qui a fait des cartons, c'est Chris Lofton.
T'as un mec à l'intérieur.
C'est Chris Lofton.
Hein. On est à combien là ? Parce que je commence vraiment à être short stack. Hein.
On est déjà à 8.
Ah, j'en ai 8 ?
Vas-y, enchaîne.
T'as un mec à l'intérieur.
Wilfried Yegueté.
Voilà !
Excellent.
Et là, j'arrête, j'ai plus.
Alors,
j'ai plus.
Après...
Ah, il y a Christian Morin.
Il y a Christian Morin avec sa clarinette. Bravo. Hein. Alors là, je suis impressionné.
J'arrête, j'ai plus.
Alors, il restait Michael Riley.
Ah, Michael Riley.
Et après, bon, là, il faut aller chercher loin. Junior Zéro.
Junior Zéro.
J'aime entendre
parler. Pas très bon, moyen.
Mathieu Nzita. Et Mel Esso et 6.
Pardon ?
Mel Esso et 6.
Ça, c'est quand t'as placé Gauzin. Là, ah, oui.
Là, je dis bravo, Stephen. Bravo. C'est un carnage.
Bravo, bravo.
Je ne pense pas qu'un quiz ait été autant dominé par un joueur cette saison. Le joueur le plus dominant de l'année.
Je suis un peu le Yannis pour l'instant, du voilà. Quiz.
Et
c'est qui rapport final.
À vous de faire mieux la semaine prochaine, messieurs.
RMC Basket Time.